Est-ce que tu peux saluer ton voisin à gauche, à droite, deuxième voisin?
Salue-le de notre part.
C'est la salutation du prédicateur. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être si nombreux dans la présence de Dieu, ayant soif d'écouter Dieu. Je sais et je crois que Dieu va nous parler. J'aimerais, avant même de commencer ce message, dire merci à Dieu qui permet que nous soyons tous là en forme, en bonne santé. J'aimerais dire merci au pasteur Vincent, ainsi qu'à tous les conseils des anciens qui ont accepté que nous puissions venir parler de la part de Dieu durant toute une semaine. Un de mes pasteurs disait « la chair est chère ». C'est-à-dire, on donne qu'à des personnes qui sont chères. J'ai compris la place que j'occupe dans le cœur de Papa Vincent, et de, ainsi que de tous les comités. Et pour moi, comme je l'ai dit au courant de la semaine, ça c'est ma deuxième église. Si vous ne me trouvez pas à la source, c'est que je suis à Goma Ouest. Je ne sais pas si vous m'accueillez. Je dis merci à Dieu pour ma femme, parce que c'est elle qui nous accompagne, parce que si elle nous troublait, vous ne me verrez jamais venir ici. Je prie aux hommes de Dieu de bien se marier. Mon pasteur me disait, il y a trois choses pour un ministère accompli. Avoir une bonne femme, une bonne bibliothèque, et un bon caractère. Une bonne femme, une bonne bibliothèque et un bon caractère. Je suis content de voir mon grand frère. Lui, c'est mon frère propre. J'ai peu d'amis, mais permettez que je vous le présente. Papa Kabosio qui vit à Butembo, c'est vraiment mon frère. Je suis content de le revoir. Que Dieu le bénisse parmi nous. J'aime souvent le dire et je le dis. Lui, son argent, c'est mon argent. Mon argent, c'est son argent. Et je suis content de les revoir. Ce matin, je vais nous proposer des textes. Toute la semaine, nous étions là en train de parler sur la parole de Dieu. Socle énergique pour la transformation de l'homme et la réforme de la société. Je nous propose des textes pour clôturer ces séminaires. Le premier texte, c'est Matthieu chapitre 7, verset 21. À 23, un passage que plusieurs connaissent. Et le deuxième texte, c'est Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 25 à 26. Matthieu 7, versets 21 à 23. Actes 11, versets 25 à 26. La parole de Dieu dit ceci dans Matthieu 7. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, sans mâcher les mots, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et la phrase qui suit, c'est ce qui nous intéresse. La Bible dit, c'est fille à Antioche que pour la toute première fois, les disciples firent appeler chrétiens. Si la Bible est la vôtre, vous pouvez souligner, c'est fille à Antioche pour la première fois que les disciples firent appeler chrétiens. J'insiste bien sûr, si la Bible est la vôtre. Si vous l'avez emprunté, ne soulignez pas. J'aimerais commencer le message de ce matin par une question bizarre. Une question à laquelle je connais déjà la réponse, mais je vais quand même la poser. Y a-t-il en cet endroit une personne qui aimerait me dire, prédicateur, je suis païen, qu'il élève juste sa main, nous allons le voir. Un païen, est-ce qu'il peut élever la main? Franchement, je savais qu'il n'y aura personne qui va élever la main. Je vais reposer la question autrement. Y a-t-il en cet endroit une personne qui aimerait dire, prédicateur, je suis chrétien, qu'il élève la main? Les chrétiens. Je veux voir les chrétiens. Élevez bien vos mains, je veux vous voir. Maintenant, il y a d'autres qui n'ont pas élevé, et païens, et chrétiens. Ceux qui sont nés dans l'assemblée provinciale. C'est là qu'ils sont nés, qu'est-ce qui peut élever la main? Franchement, je savais que tout le monde va élever la main pour dire je suis chrétien. Je m'attendais à cela. Personne n'accepte d'être appelé païen. Et j'imagine si tu vois quelqu'un en cours de route, tu l'appelles païen, il risque de te, de te frapper. Ou de croire que tu l'as injurié. Il y a même d'autres personnes, quand tu lui dis quel est ton nom, la première des choses, moi je suis chrétien. C'est comme si c'est ça son nom. Et d'autres ils vont même plus loin. Quand tu l'appelles, quel est ton nom? Il commence par frère. Moi c'est frère Benjamin. Permettez que j'en parle. Il y a même des pasteurs, des révérends pasteurs. Quand tu les appelles, tu dis frère Vincent. La première des choses, ils te demandent, tu as oublié le révérend pasteur où? Je me pose la question, avant d'être pasteur, est-ce qu'il n'est pas d'abord frère? On a l'impression que si on t'appelle frère, c'est comme si on t'a diminué. Nous sommes d'abord frères dans le Seigneur ou sœurs dans le Seigneur. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé nous parler sur l'identité chrétienne. Dis à ton voisin, l'identité chrétienne. L'identité chrétienne. Ensemble, nous verrons l'origine du mot chrétienne. D'où est venu le mot chrétien? Dédé, nous verrons qu'est-ce que le mot chrétien ne veut pas dire. Et enfin, si le temps nous permet, nous allons terminer notre message en martelant sur la définition, la signification, ce que le mot chrétien veut dire réellement. Permettez déjà, avant même que je puisse expliquer les textes que je nous ai annoncés, d'affirmer que plusieurs croient être chrétiens alors qu'en réalité ils ne le sont pas. Plusieurs s'appellent chrétiens alors en réalité qu'ils ne le sont pas. Ce matin, la seule question que je nous pose, sommes-nous réellement chrétiens? L'église d'aujourd'hui est en baisse. Elle est en difficulté car elle est remplie par des personnes, des gens qui se disent chrétiens. Mais qui ne vit pas la chrétienté? Nous avons beaucoup de chrétiens, ils disent, je suis chrétien. Je prie à Goma Ouest, je prie à la source, je prie, je ne sais pas, dans quelle assemblée. Mais est-ce que réellement nous vivons la vie chrétienne? Frères et sœurs, j'aimerais nous le dire et le redire tout au long de ce message. La vie chrétienne n'est pas un nom. La chrétienté, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas non plus un slogan. La chrétienté est une vie. Et il est important que nous quittons du slogan de ces affaires où nous nous appelons chrétiens, mais en réalité, nous ne vivons pas la vie chrétienne. Retenez rapidement ce qui suit. La première des choses que j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin, c'est que les mots ou appellations chrétiens étaient non attribués aux disciples de Christ vers l'an 43 après Jésus-Christ. L'an 43 après Jésus-Christ, les disciples se sont vus être appelés chrétiens. Et c'était dans une petite ville appelée Antioche. Si vous lisez dans Actes chapitre 1, verset 8, Christ veut rentrer auprès de son Père et il prend le temps de s'entretenir avec les disciples. Écoutez ce qu'il va leur dire. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, puis en Galilée, dans la Samarie et dans les extrémités de la terre. Mais lorsque vous lisez Actes des Apôtres chapitre 1 jusqu'à Actes des Apôtres chapitre 7, on a l'impression que les disciples oublient la mission du Maître. Ils oublient qu'ils doivent être témoins, non pas seulement à Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Des Actes 1 jusqu'à Actes 7, la Bible nous montre des disciples qui se cantonnent au niveau de Jérusalem. Ils restent à Jérusalem. Certes, en train de faire l'œuvre de Dieu. Certes, en train de prêcher l'évangile. Certes, en train de chercher la face de Dieu. Mais quelque chose survint dans Actes 8, verset 1. La Bible nous parle de la persécution de l'Église. L'Église a été persécutée. Et au moment où l'Église était persécutée, on commence par tuer même un leader qui va mourir. C'est alors que l'Église va se réveiller. Regardez ce qui se passe. Au moment où il y a persécution, les disciples décident de se sauver la vie, de la peau. Et j'aime une chose. Quand ils sont en train de fuir pour se protéger, ils faisaient un exercice que j'aime. La Bible dit, ils allaient de ville en train de faire quoi? D'évangéliser. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Ils étaient réfugiés. Mais réfugiés en train de faire quoi? De prêcher l'évangile. Et pendant qu'ils étaient en train de prêcher l'évangile, il y a des âmes qui revenaient au Seigneur. Il y a des personnes qui se convertissaient. C'est alors que la Bible nous parle d'Actes 11, un groupe de personnes, pas des leaders, mais un groupe de personnes, des chrétiens qui ont fui à Antioche. Arrivés à Antioche, ils vont commencer à prêcher. Jusqu'à ce que les gens devenaient de plus en plus nombreux. La Bible dit que ce groupe a fait appel à Barnabas. Ils ont dit, Barnabas, viens vers nous, le travail est immense. Je peux m'imaginer que lorsque Barnabas venait, il s'attendait à avoir un petit groupe de gens. Lorsqu'il arrive à Antioche, il fut surpris de voir le nombre de gens. Et j'aime ce que Barnabas a fait. Je prie que nous ne soyons pas discrets. Suivez les messages, s'il vous plaît. Lorsque Barnabas arrive à Antioche, il voit qu'il y a un grand nombre de gens. Regardez ce que Barnabas va faire. Il va aller appeler Saul. Je vous pose la question. Est-ce que Barnabas n'était pas à mesure de prêcher seul? Hein? Est-ce qu'il n'était pas à mesure de prêcher seul? Il pouvait le faire. Mais Barnabas a compris, je peux prêcher seul. Mais si je prêche encore avec Paul, nous allons faire un grand travail. J'aimerais insister et dire une chose ici. La maturité spirituelle, ce n'est pas faire partie des baptistes ou des pentecôtistes. La maturité spirituelle, ce n'est pas prêcher. La maturité spirituelle, c'est d'être à mesure de découvrir la grâce que Dieu a placée dans quelqu'un d'autre. C'est d'être à mesure d'apprécier que moi, je peux chanter, mais lui, il peut prêcher. Moi, je peux prêcher, mais lui, il peut faire le protocole. Frères et sœurs, ce qui nous tue dans l'église aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de personnes matures qui acceptent la grâce qui est dans d'autres. J'aime cette histoire de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsqu'il regarde Jésus, écoutez son langage, il dit, « Je ne suis pas digne de délier ses sandales. » En d'autres termes, Jésus est plus grand que moi. Mais si vous lisez dans Matthieu 11, au moment où Jean-Baptiste est arrêté, il est en prison, il envoie ses disciples aller demander à Jésus, est-ce lui ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Moi, si j'étais disciple de Jean, j'allais lui dire, c'est toi qui nous l'as présenté. Tu nous as dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont vu Jésus, Jésus a dit, allez dire à Jean-Baptiste, le royaume des cieux est prêché, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, errer pour qui je ne serai pas un sujet. Jean-Baptiste n'avait pas besoin d'une telle réponse. Lui, il avait besoin qu'on lui dise, est-ce que tu vas sortir en prison? Parce qu'il était innocent en prison. Mais si vous lisez la Bible, il dit, lorsque les disciples sont partis, Jésus s'est mis à prêcher. Et sa prédication avait pour thème Jean-Baptiste. Il dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Est-ce un homme habillé par les habits précieux? Non, ils sont dans les palais royaux. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Et écoutez dans sa prédication, il dira quelque chose qui m'étique. Il dit, de tous les hommes qui sont nés des femmes, il n'y a jamais eu de plus grand que... Alors, Jésus est né de qui? Je comprendrais si Jésus allait dire de tous ceux qui sont nés des hommes. On allait dire, il parlait de l'homme masculin. Mais il dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a jamais eu de plus grand que... Ah, Seigneur, donne-nous des gens dans l'église qui peuvent vanter le mérite des autres. Nous avons un problème dans l'église d'aujourd'hui, c'est que nous sommes là pour nous condamner. Nous ne voyons pas ce qui est dans l'autre. Nous ne voyons pas la grâce qui est dans l'autre. On pense être meilleur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu penses être meilleur, c'est que tu es un bébé. Et ces filles à Antioche, la Bible dit, Barnabas et Paul ont pressé ensemble pendant une année. Et après une année, les gens d'Antioche ont dit, ces gens, ils ont une qualité de vie. Ils ressemblent à quelqu'un. Et ils ont appelé les disciples comment? Des chrétiens. La deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez noter, c'est que s'il y a un mot rare dans la Bible, un mot très rare dans la Bible, c'est le mot chrétien. Le mot chrétien dans la Bible est cité 3 fois. Et les seules 3 fois qu'il est cité dans la Bible, il n'est cité que dans le Nouveau Testament. Encore ce qui est bizarre, le 3 fois que le mot chrétien est cité dans la Bible, 2 fois il sort de la bouche des païens, et une seule fois de la bouche des chrétiens. Je dis le mot chrétien est rare dans la Bible. Il est cité 3 fois. Et les 3 fois, 2 fois, il sort de la bouche des païens. Et une seule fois de la bouche d'un croyant. La première fois que le mot chrétien est cité dans la Bible, c'est dans Actes 11, verset 26. Et là encore, ce sont les païens qui ont vu les disciples mener un comportement de vie et qui se sont dit, nous les appelons chrétiens. Quand ce mot sort pour la première fois de la bouche, ça ne venait pas des croyants. Ça venait des païens, des gens mondeux, des gens qui ne connaissaient pas Jésus. Et qui ont dit, ces gens, nous devons les appeler comment? Chrétiens! La deuxième fois que ce mot est cité dans la Bible, c'est dans Actes 11, verset 26. L'apôtre Paul est accusé injustement. Que dis-je? La deuxième fois, c'est dans Actes 26, verset 28. Actes 26, verset 28. Actes 11, verset 26, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est Actes 26. Verset 28. L'apôtre Paul est accusé injustement et il est appelé à comparaître devant le roi Agrippa, certainement Agrippa II. Il doit plaider son innocence. Mais lui, au lieu de parler de son cas, il s'est mis à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a commencé à parler sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il a commencé à parler sur le pardon du péché par Jésus-Christ. Et quand il parlait ainsi, le roi Agrippa va réagir. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader à devenir qui? Chrétien. C'est encore un païen qui ne connaît pas Jésus. Il dit, la manière dont tu es en train de parler, tu risques de me pousser à devenir, hein? J'aime beaucoup la réponse de Paul au verset 29. Il dit que ça soit bientôt ou que ça soit tard. Plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis à l'exception de ses chaînes. Les désirs, les soucis de Paul, ce n'est pas de sortir de la prison. Les soucis de Paul, ce n'est pas de défendre sa cause, mais les soucis de Paul, que les gens deviennent chrétiens. Paul, est-ce que tu ne vois pas que tu seras amené en prison? C'est l'occasion de te défendre. Il dit ici, je n'aurai jamais cette occasion de parler à un roi. Comme je trouve une occasion de parler au roi, laisse-moi parler, prêcher l'évangile. Seigneur, donne-nous des gens qui sont comme Paul, des gens qui sont prêts à passer leurs intérêts, les intérêts de Dieu au-devant de leurs intérêts. Aujourd'hui, nous avons un problème. Les chrétiens ne savent plus saisir les opportunités. Paul a regardé et s'est dit, il y a beaucoup du monde ici, je n'aurai jamais cette occasion. Permettez-moi que je parle de Jésus. Et il a commencé à parler, jusqu'à ce que le roi Agrippa qui l'écoutait, il dit, mais j'avais affaire à quelqu'un qui va se défendre, mais il ne se défend pas. Il est en train de parler de son maître. En attendant de parler de ces choses, je risque de me convertir. Arrêtons d'abord. Qu'il arrête de parler. Parce que je risque d'être comme chrétien. La troisième fois que ce mot ressort dans la Bible, et pour la première fois, c'est dans la bouche d'un croyant. Et je comprends qu'il n'y a que lui qui pouvait en parler. C'est l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre 4, verset 16. Ce qui m'étonne, c'est les circonstances dans lesquelles Pierre parle du mot chrétien. J'aurais voulu qu'il parle dans d'autres circonstances, mais pas dans ces circonstances. Dans 1 Pierre, il dit ceci. Mais si quelqu'un souffre, comme qui? Comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Il montre la valeur, le poids de ses noms. Il dit, si tu souffres en qualité de chrétien, avec l'identité de chrétien, sois-en fier. Parce que ce nom n'est pas donné à n'importe qui. Je suis fier d'être chrétien. J'aime souvent le dire, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est de connaître Christ. Et je ne le regrette jamais. Je suis fier de mon Jésus. Je suis fier de crier, de citer que je suis chrétien. Que déjà ici, ils ne sont pas fiers. Ils sont venus à Goma Ouest, mais ils ont laissé leur vécu très loin. Parce qu'ils se disent, si on découvre que je suis là-bas chez les protestants, c'est fini pour moi. Aide-moi à dire à ton voisin, sois fier d'être chrétien. Dis-lui encore, sois fier d'être chrétien. Qu'est-ce donc la crainteté? Que veut dire en réalité chrétien? Avant de pouvoir dire ce que la crainteté est, j'aimerais nous parler à l'eau et là, ce que la crainteté n'est pas. Parce que beaucoup de gens pensent être chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Le mot chrétien ne veut pas dire quatre choses. Quand vous lisez Matthieu 7, verset 21 à 23, ainsi que Actes des Apôtres 11, verset 26, j'ai compris que le mot chrétien ne veut pas dire quatre choses. La première des choses, c'est que la crainteté n'est pas juste une simple appellation. Dis à ton voisin, la crainteté n'est pas juste une simple appellation. Mon frère, ma sœur, le fait de vous appeler chrétien ne fait pas de vous chrétien. Quelqu'un peut dire « Je suis chrétien » et ne pas être chrétien. Ce n'est pas parce que vous avez tous élevé les mains que vous êtes chrétien. Le fait de brandir le mot chrétien ne fait pas de vous chrétien. Et je vais même vous choquer ces jours et vous dire que les disciples ne se sont jamais appelés chrétiens. Ce sont les gens qui les ont appelés chrétiens. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens dans nos églises qui s'appellent chrétiens, mais qu'on ne peut pas appeler chrétiens. Nous avons des maris qui disent, moi je suis chrétien, mais est-ce que ta femme peut t'appeler chrétien? Nous avons des femmes qui disent, moi je suis chrétienne, est-ce que ton mari peut t'appeler chrétien? Et c'est ça le problème. Nous avons beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens. Ils brandissent le nom des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu t'appelles chrétien que tu l'es en réalité. Frères et sœurs, l'état est venu où nous devons cesser de dire que je suis chrétien. L'état est venu où nous devons manifester la vie de Christ par nos actes. Ça ne sert à rien de crier partout « Je suis chrétien ». Je vis les gens qui disent « Moi, je suis né de nouveau ». C'est pas ça. Il faut que les gens voient la vie et qu'eux-mêmes t'appellent chrétien. Aide-moi à poser à ton voisin, dis-lui « Est-ce que moi, je peux t'appeler chrétien ?» Pose-lui la question. Dis-lui bien, demande-lui « Est-ce que moi, vraiment, je peux t'appeler chrétien ?» Il y a même quelqu'un qui a du mal d'adresser la parole à celui qui est à gauche et à droite parce qu'il s'est dit « Ah, il est tout sauf chrétien ». Frères et sœurs, laissez que les gens vous appellent chrétien. Vous ne vous appelez pas chrétien. Laissez que les gens voient et qu'ils disent « Mon voisin, c'est un chrétien ». Que des gens qui viennent à l'église, nous les appelons chrétiens, mais les voisins ne les appellent jamais chrétiens. Jamais. Des parents qui disent « Nous sommes des chrétiens », mais que les enfants ne peuvent pas appeler qu'ils sont chrétiens. La chrétienté, ce n'est pas une appellation. La deuxième des choses, c'est que la chrétienté n'est pas le fait d'aller à l'église. Ah, là j'aimerais beaucoup préciser et insister même. Détrompez-vous mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que quelqu'un vient prier à Goma West qu'il est chrétien. Ceux qui sont venus une fois à la source au débit, lorsque tu es entré dans l'église, la source, la première phrase qui t'accueillait sous le mur, c'était « Éteignez vos téléphones. Prenez soin de vos téléphones et de vos sacs à main pour aider les protocoles. » En réalité, qu'est-ce que l'église voulait dire? Il voulait dire « Tout celui qui vient prier avec nous ici n'est pas chrétien. Alors, ne nous créez pas de problèmes avec les protocoles et les diaconies. » Éteignez bien vos téléphones, gardez-les jalousement. Que les gens qui viennent à l'église avec leur téléphone, mais ils rentrent sans téléphone. Pourquoi? Parce que tout le monde qui vient à l'église n'est pas. Et même maintenant, il y a quelqu'un qui est là, il est en train de regarder. Qu'est-ce que je vais voler? C'est un païen. Et à cette personne, j'ai dit, tu dois donner ta vie à Christ. Aujourd'hui, c'est toi que je prêche. C'est à toi. Et tu me regardes comment c'est à toi? Que des jeunes sœurs qui disent, non, je vais épouser ces garçons-là parce qu'ils prient même église avec moi. Tu vas mourir. Qui t'a dit que parce qu'ils prient même église avec toi, il est chrétien? C'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est. Jésus dit ceci dans Matthieu 7, verset 21. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume. Alors, quand ils appellent Seigneur, c'est qu'ils ont eu le temps de se réunir quelque part. Ils ont eu le temps de célébrer, de faire les kits. Frères et sœurs, c'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est chrétien. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est pas parce que tu viens à l'église que tu es chrétien. Maintenant, le pasteur Vincent aura un problème parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre des notes. Chaque fois qu'il ne viendra pas à l'église, il dira, pasteur, ce n'est pas parce que je ne viens pas à l'église que je ne suis pas chrétien. Il y a un prédicateur qui a prêché dimanche. Il a dit clairement, ce n'est pas le fait de venir à l'église qu'on est chrétien. Alors, pasteur, si tu ne me vois pas, comprends, je suis chrétien. C'est bien, il a suivi le message. J'aimerais dire une vérité. Aller à l'église sans Jésus. Ne fais pas de vous un chrétien, fais de vous un religieux. Mais tu ne peux pas être chrétien sans venir à l'église. Parce que j'aimerais être équilibré, je ne veux pas que quelqu'un sorte ici en disant non, 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 c'est Benjamin qui a dit ça, pasteur. Je peux même te montrer la prédication, j'avais bien écrit. J'ai dit, venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Mais tu ne peux pas brandir l'identité chrétienne si tu ne viens jamais. Dans Actes 2, verset 42. La Bible nous parle des quatre grandes activités de l'église primitive. Et la Bible dit, un, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. C'est-à-dire, ils avaient le temps de se réunir. Ils avaient le temps de faire les cultes, la célébration. Deux, dans la communion fraternelle, ils s'aidaient entre eux. Trois, dans la fraction du pain, la Sainte Cène que nous allons faire tout à l'heure. Et quatre, dans les prières. Tu ne peux pas être chrétien ou me dire que tu es chrétien si tu ne viens jamais aux enseignements. Demande à ton voisin ce que tu as été là la semaine. Demande-lui qu'il ne te réponde pas. Demande-lui ce que tu as été là la semaine. Plus je lis ma Bible, plus je comprends qu'être chrétien nous donne l'obligation de venir à l'église, de nous assembler à l'église. Lisons ensemble Hébreux 10, verset 25. L'écrivain de cette épître n'est pas encore connu, on ne sait pas c'est qui. Les théologiens pensent que c'est Paul, mais rien ne les confirme. Écoutez ce qu'il écrit. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez ces versets comme moi. Il dit, plus vous attendez le retour de Christ, plus vous êtes conscient que Jésus reviendra, n'abandonnez pas vos assemblées. Que des chrétiens de dimanche. Les dimanches, nous avons beaucoup de chrétiens. Ils sont nombreux. Mais est-ce que nous les voyons la semaine? Dis à ton voisin, n'abandonne pas ton assemblée. Dis-lui très bien. Dis-lui, frère, n'abandonne pas ton église. Plus tu attends que Jésus rentre, plus aussi, viens à l'église. Sois enseigné. Apprends la parole de Dieu. La troisième chose que la chrétienté ne veut pas dire, et cette troisième chose, j'ai du mal souvent à le dire parce que moi-même je suis concerné, c'est que la chrétienté n'est pas ou ne veut pas dire le fait de servir le Seigneur. Quelqu'un peut servir Dieu et ne pas être chrétien. J'aime cette appellation que ma mère a l'habitude de dire. Batumingi watakuwa bilalo, les ponts. Ils sont là pour amener les âmes au Seigneur, mais eux-mêmes n'arriveront jamais dans le royaume. Paul dit, à quoi me servira-t-il de prêcher l'évangile et que moi-même je rate le royaume? Frères et sœurs, ne soyez pas étonnés qu'au ciel, vous ne voyez pas les pasteurs, ou les évangélistes, ou les prophètes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui prêche, ou qui fait des choses pour Dieu, qui est serviteur de Dieu. J'ai vu des hommes de Dieu, soi-disant chrétiens, se battre juste pour les offrandes. Pam, pam, pam. Et puis ça passe à la radio. Oh non, les pasteurs de telle église, ce sont... Non, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des mercenaires dans le sang de Dieu. Des gens qui viennent se servir de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup des hommes de Dieu qui se servent de Dieu. Ils se disent serviteurs, pasteurs. Je m'excuse, homme de Dieu. Moi-même, j'en fais partie. Mais permettez que j'en parle. Si les choses ne marchent pas dans la société, c'est parce que les hommes de Dieu, ils se sont mécomportés. Où sont des hommes de Dieu qui disent la vérité? Où sont des hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu? Où sont les hommes de Dieu qui annoncent l'évangile de Christ? Aujourd'hui, nous venons à l'église parce qu'on a manqué quoi faire. Moi, Benjamin, je n'ai pas du travail. Je commence une tâche et je dis, venez, on commence à jouer le tam-tam. Oh non, église. Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu t'a demandé de commencer? J'aimerais dire à tout le monde, si vous avez manqué du travail, ce n'est pas dans l'œuvre de Dieu que vous aurez le travail. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Si vous avez manqué le travail, arrêtez de venir porter des cols pastorales et dire, moi, je deviens serviteur de Dieu. Non! Jésus dit, Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Regardez le verset 22. Quelles sont ces justifications, Seigneur? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Ils brandissent des choses qu'ils ont eu à faire. Il est possible de faire des choses pour Dieu, mais sans Dieu. J'aime souvent dire ceci. Dieu, s'il veut atteindre ses objectifs, il peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi. Et je vais vous le démontrer dans la Bible. Dieu veut nourrir son serviteur Élie. Il a utilisé quoi? Les corbeaux. Est-ce que les corbeaux, c'est un animal pire? C'est un animal impur que lui-même avait interdit. Mais pourquoi Dieu peut passer par un corbeau pour nourrir à son serviteur? Il pouvait passer par les pigeons, il pouvait passer par un autre animal. Et aujourd'hui, nous avons des corbeaux au-dessus de la chair. Corbeaux. Ça m'a toujours étonné, je ne sais pas si vous lisez la Bible avec moi. Un prophète va maudire le peuple de Dieu. Il n'est pas en mesure de détecter la voix de Dieu, que Dieu passe par une âne. L'âne commence à prophétiser quand le prophète ne sait pas prophétiser. Alors est-ce que cet âne devient serviteur de Dieu? Oui. Mais il n'a aucune relation avec Dieu. Et c'est ça le problème avec les hommes de Dieu. Ils font des choses pour Dieu, mais sans aucune relation avec Dieu. Tu es un corbeau. Ils prêchent par expérience, par habitude. Ça ne fait pas de vous un chrétien. Je m'excuse si un pasteur est fâché. J'ai dit ce que Dieu m'a demandé de dire. La quatrième chose, c'est que le fait d'accéder à un sacrement ne fait pas de vous un chrétien. Il y a beaucoup de gens qui pensent parce que je me suis baptisé, je deviens chrétien. Frères et sœurs, quelqu'un peut être baptisé et être païen. Parce qu'il y a des gens, je me rappelle, nous on est nés dans une famille chrétienne. Et comme papa était pasteur, il fallait qu'on se fasse baptiser pour avoir les habits de Noël. On s'est dit, si on ne se fait pas baptiser, on n'aura pas des habits. Parents, n'imposez jamais votre foi à votre enfant. Enseignez-lui la parole de Dieu et Dieu va le toucher et il viendra au Seigneur. Que des gens qui se sont fait baptiser, mais des païens, avec P majuscule. Qu'est-ce donc la crainteté? Que veut dire les mots chrétien? Je vais vous épargner de toute définition théologique pour vous dire le mot chrétien vient du mot grec ou du mot hébreu. Non. Je vais vous donner juste une simple définition et que j'aimerais que tout le monde comprenne. Le mot chrétien veut dire tout simplement la vie. La crainteté est une vie. Dis à ton voisin, la crainteté est une vie. Dis-lui très bien, dis-lui, la crainteté est une vie. Un missionnaire quitte son pays pour aller annoncer l'évangile dans des pays du nord d'Amérique. Et au moment où il est à bord de l'appareil, Dieu lui dit, là où tu iras, ne prêche pas l'évangile. N'enseigne pas. Ne fais rien. Et puis il dit à Dieu, mais moi je suis missionnaire. Comment je vais aller quelque part et ne pas prêcher l'évangile? Et ne pas enseigner? Dieu dit, c'est moi qui t'envoie. Vas-y. Il arrive dans un village. On lui donne la chair pour prêcher. Il dit, moi je ne suis pas là pour prêcher. Je suis votre missionnaire, mais je ne pourrai jamais vous prêcher. Et il commençait à venir à l'église comme tout le monde. Il s'asseyait à la foule comme tout le monde. Il écoutait la prédication comme tout le monde. 4 ans passés, il rentre dans son pays d'origine. Et au moment où il rentrait, on a envoyé un autre missionnaire. Le premier dimanche, le missionnaire là arrive. Et il commence à parler de Jésus. Il dit, mes frères et sœurs, Jésus vous aime. Il est mort à la croix pour vous. Et cet homme, il a existé il y a 2000 ans. Et l'église qui s'élève, il dit, non, cet homme n'a pas existé il y a 2000 ans. Cet homme a vécu avec nous. Il était dans notre village. Et les prédicateurs disent, je vous dis, il y a 2000 ans. Ils disent, non, pas question. Il a été ici chez nous. Le missionnaire dit, mais je ne comprends pas comment vous me contredisez. Ils disent, nous allons te montrer même sa maison. On a pris le missionnaire. On l'a amené devant l'ancienne maison de l'autre missionnaire. Et ils lui ont dit, c'est Jésus dont tu as parlé, tel que tu l'as décrit. Il vivait dans cette maison. On venait manger avec lui. Il était tout le temps avec nous dans les quartiers. Pourquoi? Parce que quand il parlait de Jésus, tout ce que Jésus avait fait, c'est ce que cet homme a fait. Il avait vécu sa vie. Frères et sœurs, la chrétienté est une vie. Il est temps où nous devons prêcher par notre qualité de vie. C'est ça la chrétienté. Que les gens te regardent et qu'ils disent, c'est un chrétien. Même quand tu ne parles pas, que les gens sentent que nous avons affaire à un chrétien. Vous savez, c'est étonnant. Pierre, il est assis avec les femmes. Et une femme regarde, il dit, cet homme a été avec Jésus. Pierre dit, je vous jure, je n'ai jamais connu Jésus. La femme dit, même ta façon de parler montre que tu as été. Alors quelqu'un a dit, Pierre en menta a pu exprimer qu'il est chrétien. Mais toi, même dans ta vérité, on ne s'est même pas senti que tu es chrétien. Pierre est en train de mentir, il dit, j'ai jamais vu ce Jésus-là. On dit, même ta façon de parler là, ça prouve que tu es. Frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne cache jamais. Et parmi ces choses, c'est l'identité chrétienne. Le problème, c'est ça. Nous crions tous, je suis chrétien, chrétien. Mais est-ce que nous vivons la chrétienté? Demande à ton voisin, est-ce que tu vis la chrétienté? J'aime ce que la Bible dit dans Actes 5, verset 13. La dernière partie, partie B. La Bible donne un témoignage sur les chrétiens, les disciples. Et écoutez le verset B, Actes 5, 13. Mais les peuples, c'est-à-dire les païens, les louaient hautement. Les disciples, quand ils passaient, les païens les voyaient et ils commençaient à les louer. Ouh, celui-là, c'est un chrétien. Est-ce que toi, quand tu passes au quartier, les gens peuvent te louer? Hein? La version bonnet de 1910 ici. Mais les peuples leur donnaient des grandes louanges. Quand ils passaient, les peuples donnaient des grandes louanges. La tradition œcuménique de la Bible dit ceci. Les peuples faisaient leur éloge. La parole vivante d'Alfred Quinn le dit encore mieux. Il dit, mais le peuple tout entier les tenait à haute estime et chantait leur louange. Ils étaient respectés aux yeux du peuple, respectés dans les quartiers, respectés dans les avenues. Pourquoi? Par leur style de vie. Où sont ces gens qui sont respectés? Combien de fois nous avons déshonoré nos églises à cause de toi? J'ai entendu des gens dire, si lui il va au ciel, c'est que nous irons à pied. Lui vraiment, s'il va au ciel, c'est que nous allons aller là-bas. Et nous avons beaucoup de gens comme ça dans nos églises. Ils viennent chaque dimanche. Ils prient avec nous. Ils chantent, ils font des choses. Ils construisent. Mais est-ce que réellement vous êtes chrétien? Demande à ton voisin, est-ce que vraiment tu es chrétien? Demande-lui, est-ce que tu es chrétien? Les fidèles de l'église primitive, ils avaient une qualité de vie supérieure. Seigneur, donne-nous des gens, des hommes et des femmes qui ont cette qualité de vie. Des hommes, quand ils se tiennent dans nos églises, on peut voir la qualité de vie. Les gens peuvent facilement dire, j'aimerais être comme lui. Comme lui. Est-ce que je peux parler librement? Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des chrétiens Naaman. Dis à ton voisin, chrétien Naaman. Dis-lui, chrétien Naaman. Je suis dans 2 Rois, chapitre 5, verset 1. Je vais vous expliquer les chrétiens Naaman, comment ils sont. Et puis, nous allons prier. 2 Rois, chapitre 5, verset 1. La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Naaman avait 3 grandes caractéristiques. Première caractéristique, il avait un rang social élevé. Il était le chef de l'armée des Syriens. Il était le général des armées. Deuxième caractéristique, en dehors du fait d'être général de l'armée, il était le bras droit de son roi, l'ami intime. Troisième caractéristique, la Bible précise clairement dans ces passages que c'est par lui que le Seigneur passait pour délivrer les Syriens. Sauf qu'il y a un problème avec la vie de Naaman. Il avait un mais. Dis à ton voisin, mais. Dis-lui, mais. Ceux qui ont étudié dans de bonnes écoles, nous autres, on a étudié dans de mauvaises écoles, ils ont vu en français grammatical. En français grammatical, on dit ceci. Quand une phrase est précédée par « mais », cela veut dire que le « mais » annule la phrase précédente. Lisez avec moi. Chef de l'armée des Syriens. L'ami du roi. C'est par lui que le Seigneur passait. Mais cet homme fort était lépreux. Et on a des chrétiens comme ça dans nos églises. Non, ils chantent dans l'église Goma West. Mais elle triche encore à l'école. Elle est honorable. Mais et quand je dis c'est mais, tu connais toi-même les mais en question. Quand on met mais, c'est pour dire faites attention, elle est tout, sauf ce qu'elle dit. Et nous avons beaucoup de chrétiens comme ça. Il vient à Goma West, mais il sort avec les papas de tout. Vous savez, il y a des jeunes sœurs qui ont fait que les mamans deviennent des mamans intercesseuses sans appel. Pourquoi? Parce que chaque fois que son mari sort, elle dit dans son cœur, Seigneur, je frappe mon mari d'aveuglement qui ne voit pas cette fille-là. Et cette fille vient prier à Goma West. Tu as fait que la maman d'autrui commence à prier quand elle ne devait pas prier. Et tu viens à l'église. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Mais! Et beaucoup de gens ont des mains dans leur cœur. Il y a d'autres qui viennent donner des offrandes pour enlever ces mains-là. Non, abandonne mon frère. Oh non, je bénis Dieu, j'ai eu le travail. Mais comment as-tu eu le travail là? Toi-même tu connais, mais en couchant avec le PDG de la boîte. Oh non, je bénis le Seigneur. Tu bénis le Seigneur, est-ce que c'est Dieu qui t'a donné? Oh non, je bénis le Seigneur, j'ai construit la maison. Mais comment as-tu construit cette maison-là? Corruption. L'argent qui devait entrer dans la caisse de l'État est entré dans ta poche. On se demande si c'est ta poche qui est devenue caisse. Je vous pose la question. Comment avez-vous eu ces beaux habits que vous portez aujourd'hui? On vous voit beau, resplendissant. Mais comment avez-vous eu ces beaux habits? Jeune homme, toi qui entres tout le temps sur Facebook, comment as-tu eu ces téléphones-là? Je me suis toujours posé la question. J'ai dit, les Congolais doivent connaître le mot miracle. Ton père, enseignant à l'école primaire, 100 000 francs congolais comme salaire. Mais toi, tu as Samsung S8. Ça, c'est un miracle. Tu as un téléphone plus cher que le salaire de ton père. Comment as-tu eu ce téléphone-là? Même si ton père faisait des économies, il n'aura jamais ce téléphone-là. Mais, aujourd'hui, il faut que les mains hautes, dis à ton voisin, il faut que les mains tombent aujourd'hui. Regarde les prêches avec moi, dis-lui, il faut que les mains tombent aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, il faut que ses mains soient ôtées au nom de Jésus. Mais, chrétien Naaman, aux yeux des gens, c'est un bon chrétien. Mais, en coulisses, dans les quartiers, là où les gens ne les connaissent, il y a un mais. Dans notre église à Bukavu, on avait une sœur qui aimait beaucoup le Seigneur. Beaucoup. Quand les cultes devaient commencer à 8h, elle était là à 6h. Les dîmes, elle donnait des dîmes. Les actions de grâce, elle donnait. Construction, elle donne. Et nous, en regardant, on disait, waouh, s'il y a des gens qui vont aller tout droit au ciel, celle-ci. Un bon jour, une semaine, elle ne vient pas à l'église. Le pasteur a dit, nous allons aller voir notre fidèle, vraiment, sens fidèle. On arrive chez elle, on toque à la porte. Elle s'appelait Zawadi, j'espère qu'il n'y a pas de Zawadi ici. Alors on toque à la porte, c'est sa maman qui vient ouvrir. On dit, maman, nous venons voir la sœur Zawadi. Maman regarde, il dit, vous cherchez qui? On répète, sœur. Maman dit, si vous cherchez Zawadi, elle est là. Mais si vous cherchez sœur Zawadi, elle n'est pas là. Zawadi, elle est là. Mais sœur. Et nous avons beaucoup de gens comme ça. Quand ils sont à l'église, ils sont sœurs, ils sont frères. Mais à la maison, on ne peut pas les appeler frères et sœurs. Cher mari, est-ce que votre femme peut vous appeler vraiment frère? Mais, chrétien, mais, elle donne les offrandes, mais, elle a volé ça. Et même ce matin, elle a prévu même venir vous donner ça. Hier, elle est partie, elle a couché avec les papas d'autrui. Elle dit, bon, action de grâce, digne. Eh, c'est la malédiction. Un jour, je reviendrai pour vous parler des biens mal acquis. Comment vous vous attirez la malédiction? Un bien mal acquis, vous ne devez pas l'amener dans la maison du Seigneur. Chaque fois que vous amenez un bien mal acquis, vous vous attirez la malédiction. Amen ou pas, amen, je prêche la parole de Dieu. Je termine par ces passages. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe et il dit quelque chose que j'aime. Dans 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui a fait toujours triompher en Christ et qui reprend par nous en tout lieu quoi? L'odeur de sa connaissance. Frères et sœurs, le temps est arrivé où chaque fois que nous passons, que les gens sentent l'odeur de vouloir connaître Christ. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui, frères et sœurs, le temps est venu où nous devons être cette bonne odeur, où nous devons exhaler les parfums de Christ, où nous devons pousser les gens à désirer Christ. Romains 8, 19 dit ceci. Aussi la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Ces hommes et ces femmes qui s'appellent chrétiens, réellement qu'ils manifestent, qu'ils vivent Christ. Je termine mon message par ces témoignages. En 1996, je m'ai converti. En 98, je raconte une sœur. Cette sœur aujourd'hui travaille à IRC Bukavu. Permettez même que je cite son nom, Immaculée. Alors que je la raconte, je savais que moi j'ai prié beaucoup. Je la regarde, je dis, ma sœur, tu sais, moi je prie de 4 heures à 6 heures. Et puis elle me regarde, elle dit, moi je prie de 21 heures à 4 heures. Je regarde, je dis, waouh! Et moi qui croyais me vanter devant elle, elle prie de 21 heures. Frères et sœurs, j'ai assisté à la défense, au jury de cette femme. Elle a fini en médecine. Un bon jour, pendant qu'elle faisait son jury, elle a fini avec mention distinction. On a limité le temps, on a dit chaque étudiant va se défendre autant de minutes. Mais quand c'était arrivé son temps, le professeur avait envie de poser des questions. Parce qu'il posait des questions, elle répondait. Et le professeur cherchait quelle est la question à laquelle elle ne va pas répondre. On pose, elle répond. On pose, elle répond. On pose, elle répond. On pose, elle répond. Jusqu'à ce que même le temps a débordé. Et j'étais au fond de la salle. J'ai entendu un garçon qui était à côté de moi. Il dit, Balenjo va mourir vraiment, va aller. Et pendant qu'il parlait comme ça, quelqu'un qui était à côté de lui dit, tais-toi! Est-ce que tu sais taire? Il est devenu aujourd'hui pasteur. C'est parce qu'il a osé faire la cour à cette fille-là. Il lui dit, si tu vas vers elle, tu as deux possibilités. Soit de devenir comme elle, c'est-à-dire pasteur, ou soit qu'elle te refuse. Et là où j'étais, j'ai crié, c'est ma sœur! J'étais fier de dire que c'est ma sœur. Mais où sont ces sœurs comme ça dans nos églises? Qu'on peut témoigner comme ça par des païens. Tu viens à l'église, mais tu triches encore à l'école. Tu viens à l'église, mais c'est toi qui es sous à l'école. Tu écris toujours deuxième session. Oh non, les jurys n'étaient pas d'accord avec moi. Non, le problème, tu es brurique. Seigneur, donne-nous des chrétiens, des hommes et des femmes qui manifestent la vie de Christ. Moi, je termine mon message. Et je mets fin à l'opération André. Je dirai à Dieu, je l'aurai prêché ta parole. J'aimerais que nous puissions courber nos têtes en prière. J'aimerais que tu commences à prier Dieu là où tu es. Que tu commences à parler à Dieu. À dire à Dieu, je veux être vraiment un chrétien. Je ne veux pas être un chrétien de nous. Je ne veux pas être un chrétien d'église. Je ne veux pas être quelqu'un qui prêche l'évangile et que je rate le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu, dit Seigneur, aide-moi à avoir une qualité de vie. J'aimerais que quelqu'un parle à Dieu pendant quelques minutes. Parle à ton Dieu. Déverse ton cœur dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, aide-moi réellement à être chrétien. Aide-moi à arrêter à prouver aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent montrer aux gens ce qu'ils ne sont pas. Tout le monde connaît que c'est un bon monsieur. C'est une bonne dame. Mais lui-même dans son cœur, il sait qu'il ne l'est pas. Tu viens avec nous chaque dimanche. Il y a encore un mais dans ta vie. Et même quand j'étais en train de parler de ces choses, tu savais, c'est de moi que le prédicateur parle. J'aimerais faire un appel dans mon cœur qui monte. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait dire, prédicateur, prie pour moi? Tout ce temps, je croyais être chrétien. Mais après avoir entendu ce message, je me rends compte qu'il y a des choses qu'il faut arranger avec Dieu. Je me rends compte qu'il y a des mets dans ma vie. Lève-toi, je vais prier avec toi. Lève-toi, je vais prier avec toi. Y a-t-il un chrétien, Naaman? Merci, ma sœur. Nos yeux sont fermés. Il y a beaucoup de gens qui doivent s'élever aujourd'hui. Lève-toi, je vais prier avec toi. Ce matin, le Seigneur t'a parlé et tu veux arranger un domaine de ta vie. Ta femme t'apprécie, mais tu sais
que tu n'es pas ce qu'elle, elle pense. Les hommes t'apprécient, mais tu sais que tu n'es pas ce qu'eux disent. Lève-toi, je vais prier avec toi. Lève-toi, je vais prier avec toi. Merci pour ceux qui sont déjà debout. Si tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Jésus a dit, ceux qui auront honte de moi devant les gens, j'aurai aussi honte d'eux devant mon Père. Je prie que tu prennes cet engagement. Je prie que tu t'élèves là où tu es. Si tu sens que c'était ton message aujourd'hui, que Dieu t'a parlé dans une manière ou d'une autre, lève-toi, je vais prier avec toi. Tu es conscient que Dieu t'a parlé ce matin. Et tu sens que tu dois arranger certaines choses dans ta vie. Lève-toi, je vais prier avec toi. Ne dis pas, je verrai les prédicateurs après ce message. Il y a une grâce maintenant même, alors que je parle. Lorsque tu t'élèves, même les anges viennent te soutenir. Dieu dans le ciel vient lui-même te soutenir. N'aie pas peur, qu'est-ce que les gens diront de moi? Ça fait beaucoup d'années que je suis dans cette église. J'exerce une fonction importante dans cette église. Ne dis pas tout ça dans ton cœur. C'est une histoire entre toi et ton vieux et ton Dieu. Une question de vie entre toi et ton Dieu. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît, s'il te plaît. J'insiste. J'insiste. Et même au moment où j'insiste, tu sens que ton cœur bat fort. Lève-toi. Je vais te demander de faire un autre pas. Avance ici devant. Je vais prier avec toi. Avance ici devant. N'aie pas peur. Avancez. Même si vous êtes là derrière, avancez. Que ceux qui sont à côté de vous, qu'ils vous laissent passer, qu'ils feraient pour vous un chemin, car c'est pour vous que je suis venu. J'aurais dû prêcher un autre message, mais le Seigneur m'a convaincu de dire ces choses. Parce qu'il veut une qualité de personnes dans cette église. Ça ne sert à rien. J'aimerais que vous me regardiez. Vous ne regardez personne là-bas, vous regardez Dieu. Regardez ici. Ça ne sert à rien d'avoir 500 membres. Et que de ces 500 membres, seuls un ou deux sont chrétiens. Depuis un temps, vous faites croire aux gens ce que vous n'êtes pas. Avancez, mon frère. Tout le monde vous apprécie, mais vous-même, vous savez dans quoi vous êtes. Vous savez, même votre femme vous apprécie, mais vous-même, vous savez que vous la trompez. Avancez, je vais prier avec vous. Avancez, je vais prier avec vous. J'insiste. Ne reste pas à ta place alors que tu devais avancer ici devant. Ne reste pas là derrière alors que tu devais venir ici. Je t'attends, mon frère. Je t'attends, ma soeur. Avance. 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 Il y a encore des gens qui hésitent. Je vous attends. Je me vais demander à nos pasteurs de venir faire une ceinture derrière ce bien-aimé. Aux pasteurs et aux anciens de l'église, venez faire une ceinture. Mais avant que les hommes de Dieu ne viennent faire cette ceinture, si tu es là derrière et que c'est ton message, avance. Toute cette semaine, je me suis poumonné. J'ai eu à manquer de sommeil juste pour vous donner ces messages de ce matin. Ça serait malheureux si vous restez à votre place et que vous savez que vous deviez avancer. Moi, je dirais à Dieu, c'était dimanche 5 août que j'ai dit, j'ai donné même des exemples, j'ai même donné des versets et des versets. Avance mon frère, avance ma soeur, avance, 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 avance mon frère, avance ma soeur, avance, élevez vos mains à l'heure. Les hommes de Dieu qui sont là, ils vont prier pour vous. Et vous-même, commencez à prier. Dites à Dieu, nous aimerions être des chrétiens dignes de ces noms. Des chrétiens dignes de ces noms. Seigneur, nous voulons manifester ta vie. Avoir une qualité de vie. Aide-nous, Jésus.
Et le pasteur va prier pour nous.
Voici le temps favorable que tu as créé, Seigneur, pour mon frère et ma soeur ici présents, devant ton trône de la grâce, pour obtenir de toi cette nouvelle vie que tu donnes, cette nouvelle dimension de vie à laquelle tu les élèves, pour expérimenter la puissance de la parole dans leur vie. La puissance de la vie de résurrection en Christ qui vit en intimité étroite avec ceux-là qui l'invoquent et qui veulent vivre selon les exigences de l'Évangile. Nous prions pour ces bien-aimés, pour que tu imposes ta main sur eux, pour les bénir, pour leur accorder la grâce d'expérimenter à quel niveau entrer en communion avec les dieux tout-puissants, les dieux vivants et vrais, ça change tout. Nous prions, Seigneur, que tu leur accordes la grâce de faire l'expérience, de vivre en nouveauté de vie. C'est là que tu rends possible lorsqu'on dit, Seigneur, viens à mon aide. Pardonne-les, accorde la grâce, Seigneur, de sentir de nouvelles énergies spirituelles envahir leur être tout entier, pour qu'ils soient des témoins vivants de Christ et qu'ils réalisent qu'ils sont appelés à défendre cette identité d'être chrétien. Bénis-les, soutiens-les, fortifie-les, affermis leur foi et accorde-les la grâce, Seigneur, de sentir par la puissance de ton Esprit Saint que tu accordes une nouvelle grâce, que tu assaisonnes leur vie et qu'une nouvelle saison est en train de commencer, saison par laquelle leurs parents, les membres de leur famille, les amis à l'école et les autres qui trouveront sur leur chemin constateront que tu as opéré des changements radicaux, des transformations effectives dans leur manière d'être et de se conduire. Nous prions que tu le fasses, parce que nous te l'avons demandé, pour la gloire du Christ, notre puissant Sauveur. Amen.